C'est l'occasion pour moi de vous saluer, de vous remercier d'être venus si nombreux et de remercier la médiathèque qui nous accueille une nouvelle fois dans ses étages. Nous avons volontairement voulu ne pas aller à la Galerie Reca parce que il nous reste quelques jours de travaux avant la réouverture de l'espace permanent. Ça sera jeudi prochain à 18h, donc on voulait vous garder la surprise. Donc vous serez tous et bienvenus à cette inauguration qui aura lieu à 18h. Et on nous invite également à tous les événements qu'il va y avoir durant 3 jours jusqu'au samedi, avec des tables rondes, mais aussi des spectacles, des jeux, enfin voilà, de quoi fêter à la fois cette réouverture et aussi nos 30 ans. Parce qu'on ne les fait peut-être pas, mais la Galerie Reca a ouvert le 8 décembre 1995. Et donc voilà, ça sera l'occasion de célébrer cet anniversaire et le million de visiteurs que nous avons déjà accueillis dans nos murs. Pour ce jour, nous sommes ravis d'accueillir Xavier Baudin, qui est glaciologue, mais il préfère se faire géomorphologue, hein, c'est le vrai terme. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons invité Xavier parce qu'il a participé à un ouvrage sur le glacier de la Girouse. Un ouvrage, on va dire, très engagé sur les sujets des transitions. Et nous avons travaillé avec un certain nombre de scientifiques dans cette rénovation de notre espace montagne consacré aux sciences et aux transitions. Et nous avons rencontré énormément de scientifiques, donc de chercheuses et de chercheurs très engagés sur ces sujets de société. Et ce qui nous a donné l'envie de faire ce café débat aujourd'hui et de nous poser la question: quel est le rôle du chercheur dans la société? Doit-il nous fournir des données, des analyses? Est-ce qu'il doit se contenter de ce travail-là? Ou au contraire, il doit-il s'engager sur ces sujets-là, tels que l'environnement, de façon plus forte? Et bien, c'est un petit peu la question que nous voulions évoquer, et plein d'autres aujourd'hui, à travers de ce café débat. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas notre formule, pendant une demi-heure, nous allons laisser Xavier Baudin présenter cette problématique, d'exposer ses idées, et nous garderons la dernière demi-heure pour pouvoir justement le questionner et débattre sur ce sujet. Voilà, et le temps de faire cette introduction, on a résolu tous les problèmes techniques. Donc Xavier, je vous laisse la parole et merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci Jean-Yves. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là parmi vous, autant pour le fait de présenter des travaux et la connexion qu'ont des travaux de recherche avec la société, on va dire, et puis pour le fait de participer à cet effort de médiation scientifique auquel contribue heureusement la galerie Eureka. Alors effectivement, je suis pas glaciologue, je suis géomorphologue. La géomorphologie, c'est la science qui étudie les formes du relief terrestre, les paysages, sur des temps plus ou moins longs. Et je travaille depuis une vingtaine d'années sur le permafrost en milieu de montagne, principalement dans les Alpes, un petit peu dans les Andes aussi. C'est à travers cette activité de recherche de géomorphologie sur les milieux de montagne que j'ai été amené, on va dire, à me poser des questions, on va dire, un peu de côté de ma place comme producteur de connaissances scientifiques sur des milieux qui sont pas seulement impactés par des phénomènes naturels, mais aussi par des phénomènes d'origine humaine. Et comme l'évoquait Jean-Yves, si peut-être vous avez décidé de me demander de présenter, c'est aussi qu'avec d'autres collègues, on a mené il y a un peu moins de deux ans maintenant, un travail autour de la mise en œuvre d'un ouvrage qui visait à combiner une approche, on va dire, scientifique et sensible, c'est-à-dire qu'on s'est posé une quinzaine de chercheurs autour d'un cas conflictuel, on va dire, d'une controverse qui prenait place sur le glacier de la Girouse, sur laquelle je reviendrai, pour savoir en quoi cette controverse qui, on va dire, agite la société, nous agite nous-mêmes, et en quoi nos savoirs, les connaissances qu'on a, que ce soit en glaciologie, géomorphologie, ou en écologie, sociologie et d'autres, en quoi ça participe éventuellement à modifier des choses dans la société. Alors, je fais de la géomorphologie de la haute montagne, et si je vous présente une série de clichés comme ça, sur la haute montagne, je pense que vous allez tous être capables de me citer quel glacier on est en train d'observer ici. Donc sur un pas de temps de 100 ans, le glacier de Argentière. La mer de glace est ici. Donc on a là des beaux clichés qui, avec un premier cliché pris en 1919, donc des clichés d'avion, et puis repris en 2019, un siècle plus tard, avec les mêmes ensoleillements, cadrages, qui permettent d'apprécier, on va dire, l'évolution de l'emprise glaciaire dans ces milieux hautement symboliques qu'est le massif du Mont Blanc. Moins symbolique peut-être, mais tout autant, enfin chargé d'émotion, on va dire, l'évolution drastique, beaucoup plus flagrante, puisque en 2016 il restait une petite tache de glace là du glacier de, ah c'est un peu plus loin, enfin on remarque pas tant que ça, c'est le glacier de Sarenne sur le flanc sud du massif des Grandes Rousses qui supporte le téléphérique du lac Blanc. Donc le glacier de Sarenne en 2023 a totalement disparu. Donc voilà, tout ça, c'est juste pour évoquer, voilà, cadrer un peu d'une façon générale ce que l'on sait tous déjà, que les glaciers évoluent fortement. Maintenant, je vais vous donner quelques éléments, on va dire, factuels, histoire d'objectiver un peu cette évolution des glaciers. Vous avez à gauche là une carte de l'emprise des glaciers dans les Alpes françaises, avec les trois principaux massifs, hein, les Écrins, Vanoise et Massif du Mont Blanc. Les petites teintes de couleur, je vais y revenir. Mais en gros, ça symbolise l'englacement à différentes périodes. Le bleu clair, c'est l'englacement à la fin du petit âge glaciaire, 1850. Et puis le bleu sombre, c'est l'englacement en 2015. Donc évidemment, 10 ans plus tard, on peut encore faire reculer le trait, la limite du front du glacier. Ce que nous apportent les données, notamment cartographiques, les reconstitutions de cette évolution glaciaire, c'est que en un peu plus de 150 ans, c'est 50% des surfaces glaciaires dans les Alpes françaises qui ont diminué, et que sur la seule période la plus récente pour cette donnée-là, la seule période la plus récente, c'est 25% de changement. À l'échelle de toutes les Alpes, de tout l'arc alpin en Europe, sur la période récente 2003-2015, l'évolution des surfaces, c'est 15%. En termes de volume maintenant, parce qu'évidemment les glaciers perdent de la surface, mais ils diminuent aussi en volume, et cette évolution des volumes sur une période de temps similaire, hein, 1850, donc fin du petit âge glaciaire, la dernière période qui a connu une extension glaciaire significative, jusqu'à 2015, c'est plus de 60% de diminution des volumes estimés. Ça correspond, si on rapporte ce volume à une perte verticale, hein, sur toute la surface de chaque glacier, ça correspond à 43 mètres, alors d'équivalent en eau de glace disparue, et ce qui fait une tendance, on va dire, à l'année sur l'ensemble de chaque glacier. C'est une moyenne très générale, ça peut varier beaucoup à la surface de chaque glacier. Évidemment, ça perd moins en altitude que à proximité du front, mais ça fait, voilà, 25 cm de glace perdue chaque année. Ça, c'était la tendance sur cette longue période, sachant que sur les dernières périodes, les dernières 15 années de cette étude-là, c'est 3 fois plus de perte de glace qui est observée et mesurée. Et vous avez donc à droite une cartographie qui représente un peu une cartographie qui représente les pertes de volume de glace variables régionalement. Bon, c'est un aspect. Et puis là, à nouveau, c'est une prédiction, on va dire, c'est une simulation de l'évolution. Donc ce graphique-là, qu'on va pas lire dans le détail, hein, mais c'est juste, vous voyez bien que l'axe du temps qu'on a ici, il va dans le futur. Il part d'un point de départ qui est aux alentours de 2015, la courbe noire, et puis ensuite il propage des évolutions estimées, simulées, modélisées des glaciers, avec à droite des volumes en kilomètres cubes, à gauche des volumes en kilomètres cubes, et à droite des pourcentages d'évolution à partir d'un point de départ qui est là. Et donc on voit que on aura perdu entre la moitié et la totalité des glaciers en fonction des scénarios qui sont mis dans le modèle climatique. Ça, c'était une vue un peu très globale. Et puis, pour rendre les choses un peu plus concrètes, je vous présente ici 4 panneaux qui sont des cartographies de la langue de la mer de glace, à 4 pas de temps différents, 2015, 25, 40 et 50. Donc, de 2015 à 2020, 25, ça doit être la date actuelle, c'est une modélisation. C'était une prédiction au moment de la réalisation de l'étude. Bon, ce qu'on voit, c'est évidemment le retrait du front du glacier, son amincissement. Les plages de couleur ici traduisent les épaisseurs de glacier. On voit qu'il y a encore près de 300 mètres de glace dans les parties un peu en cuvette de la langue de la mer de glace, mais qu'évidemment, ça va fortement se réduire d'ici à 2050. Alors ça, c'est voilà, pour dresser un petit peu le panorama de cette évolution des glaciers. C'est pas tant pour déprimer que pour voilà, évoquer ce fait incontestable qui est une évolution climatique notable qui marque l'ensemble du globe. Et cette évolution, elle impacte les glaciers. Mais il n'y a pas que l'évolution climatique qui impacte les glaciers. Il y a tout un tas d'autres phénomènes dans un contexte alpin spécifique, notamment où se développe entre autres une économie touristique assez assez gourmande en ressources et en ressources naturelles, en pente, en neige. Et les glaciers font partie aussi de ces, on va dire, terrains de jeu hein, pour cette économie touristique. Et ils sont aussi affectés par tout un tas d'aménagements dont je représente par exemple ici le damage. Enfin, il a fallu d'abord pelleter le tracé de cette piste sur un glacier en Autriche. Ici, c'est le comblage de crevasses en Italie, le comblage de crevasses avant de pouvoir faire passer une piste de ski. Ici, c'est deux photos qui illustrent des aménagements en vue de la prévention de la vidange du lac du glacier des Bossons aux alentours de 2022-23. Et puis ici, c'est le glacier de la Giraud sur lequel je reviendrai tout à l'heure, où les aménagements sont plutôt à des fins touristiques de fonctionnement de la station de la Grave. Donc tout ça pour montrer que les glaciers sont pas seulement impactés par des dynamiques naturelles, ils sont aussi impactés à une échelle évidemment notablement différente. Ils sont aussi impacté par concrètement les aménagements humains, quoi, ce qui fait un peu la matérialité de notre économie actuelle pour les milieux de montagne. Ça se matérialise, on va dire ponctuellement, mais quand on regarde, quand on dresse un panorama ici, c'est toujours la même carte où j'ai rajouté l'ensemble des remontées mécaniques de l'arc alpin en France. Donc on a voilà toute cette distribution de gros spots de stations de ski avec évidemment pas mal de grands domaines en Savoie. On a ici un petit zoom sur la Grande Motte qui j'ai zoomé sur ce secteur-là parce que c'est un secteur que je connais un petit peu plus sur lequel on travaille avec mes collègues sur des questions de permafrost notamment. Voilà juste pour illustrer encore une fois le fait que la haute montagne, c'est bon, vous en doutez, c'est pas un milieu aussi vide que ça, notamment vide d'activité humaine. Et il y a certains secteurs qui sont qui connaissent une activité importante, en particulier liée au domaine skiable. Pour enfoncer un peu le clou, pas forcément pour dénoncer l'activité du tourisme de ski, mais pour appuyer encore une fois le fait que ça a des impacts matériels dans les paysages. Cette cartographie, c'est un zoom d'un travail qu'on a réalisé avec une étudiante l'an passé. C'est un zoom sur le secteur de Val Thorens et où si on voit sur cette carte à la fois l'emprise des glaciers, donc à nouveau les glaciers au petit âge glaciaire. On voit que et avec l'emprise actuelle des glaciers, enfin celle de 2015 qui est ici, donc on voit que le retrait glaciaire libère aussi des espaces que les stations peuvent évidemment utiliser à des fins d'exploitation touristique. Et puis en rouge, les zones de pistes de ski, pistes qui ont généralement subi des terrassements assez importants. Donc pour revenir sur cette matérialité spatiale, hein, toujours des activités humaines, on va dire, hein, toujours un peu en pendant de l'évolution climatique liée à la dynamique naturel, entre guillemets, même si le climat est détraqué, évidemment, par les activités humaines. La matérialité spatiale des stations de ski en France, c'est à peu près 11 000 km² de terrain affecté de près ou de loin par ça. Pas uniquement de la haute montagne, évidemment. Hein. À peu près plus de 2 000 remontées mécaniques et puis 8 500 km de pistes. Donc ça montre que c'est une activité qui a un impact notable sur les versants. Il n'y a qu'à prendre quelques photos de l'année sur Internet pour saisir un peu que en fait les dynamiques qu'on voit se développer dans nos milieux urbanisés, il y a le même phénomène d'urbanisation finalement au travers d'engins, de travaux, de TP, etc. qui aménage le milieu. Ici une photo, enfin deux photos d'un site en particulier de la cime Caron à Val Thorens, sur laquelle on a un petit peu plus travaillé. Alors, ça, c'était un peu un mode d'introduction, on va dire, de ce à quoi je voulais en venir et ce qui fait le lien peut-être avec la sollicitation pour vous faire cette présentation, ce café Midi Science. C'est le fait qu'on s'est retrouvé un peu malgré nous, on va dire, avec quelques collègues, un collègue écologue et un collègue sociologue, on s'est retrouvé embarqué dans une controverse, enfin c'est-à-dire qu'on a eu la volonté quand même d'y mettre un peu le pied dans cette controverse aux alentours de 2023, quand une succession d'événements autour de l'aménagement d'un troisième tronçon de téléphérique sur le glacier de la Gireuse est venu un peu secouer on va dire les médias et la société alpine, et on a trouvé ça intéressant quelque part d'essayer de faire résonner cette controverse avec nous-mêmes ce qu'on produit comme connaissance dans nos champs disciplinaires respectifs, hein, l'écologie, voilà, plutôt les plantes et notamment les plantes très spécifiques inféodées à ces milieux de haute montagne, la géomorphologie, notamment les cailloux, la glace dans ces milieux, et puis mon collègue sociologue qui travaille sur les controverses. Alors, pour présenter un peu le cadre du glacier de la Gireuse et de l'aménagement, donc cette carte, elle vous dresse un panorama depuis, enfin c'est une carte type top 25 IGN classique, quoi, avec la Grave qui est ici, la vallée de la Romanche, et puis tous ces vallons qui se développent jusqu'au glacier de la Gireuse qui est celui-là. On a ici les sommets mythiques Meige et Râteau, et le projet de... l'évolution du glacier, toujours sur cette même période, 1850, l'actuelle, c'est celle qui est décrite là. Donc le trait bleu plein, c'est approximativement l'emprise du glacier actuel. Et puis le trait bleu pointillé, c'est lorsqu'il était en forme, on va dire, à la fin du petit âge glaciaire, 1850. Et le projet d'aménagement avec l'existant et puis le projeté ici, le projet d'aménagement qui a généré des espoirs et des craintes, et c'est ce sur quoi je vais revenir. Ce vallon, il a tout un tas de richesses, tout comme on va dire n'importe quel milieu, hein, notamment de montagne, mais ça c'est de mon point de vue d'amoureux de ces milieux sur lesquels je travaille et dont je vois jour après jour la richesse. Donc en termes géomorphologiques, il y a une richesse majeure, notamment c'est le fait que s'y développent des glaciers, du permafrost, qu'on y voit dans le paysage, on peut y lire la marque de l'évolution de ces milieux sur du très long terme. Et ce qu'on voit ici, qui est une moraine, un tas de cailloux amenés par le glacier, et une forme qui a été construite sur plusieurs milliers d'années, et sa morphologie, elle est vraiment très caractéristique, très bien préservée, très belle, en tout cas de mon point de vue qui apprécie l'esthétique de ces milieux. Et mon collègue Molène a fait de belles datations de ces différents cordons. Donc ce qu'on voit en violet ici, c'est cette moraine qui est là, dont on peut dater les phases d'avancer, retrait, puis à nouveau réavancer. Ici, c'est des milliers d'années. Je ne vais pas rentrer dans cette chronique, hein, mais en gros, le glacier n'a pas arrêté d'avancer, de reculer et de réavancer. Et à chaque fois qu'il y avait un stationnement du glacier à un certain niveau, et bien, il construisait, il reconstruisait, il augmentait la hauteur de cette magnifique moraine sur laquelle, si on voyait des personnages, ils sont vraiment, pour donner une idée de l'échelle, c'est une moraine qui fait plusieurs dizaines de mètres de haut, ce qui est assez impressionnant. Des richesses écologiques dans ces milieux de haute montagne qui sont certes froids, très enneigés, où l'oxygène est rare, où le sol est quasi inexistant. Néanmoins, il y a des niches écologiques qui se développent, notamment des plantes en coussin. On voit ici une silène, on voit des insectes inféodés, enfin qui bénéficient de la présence de ces végétaux. Et voilà un peu pour dresser un panorama de ces richesses écologiques, notamment végétales. On verra par la suite que cet inventaire des végétaux sur le site a été un élément ensuite de la controverse qui s'est menée autour de l'extension du projet du téléphérique de la Grave. Donc des richesses vraiment très localisées, enfin en termes écosystémiques, c'est sûr que c'est des végétaux qui sont petits, ramassés sur eux-mêmes. Néanmoins, ils agrègent des histoires souvent très longues. La silène qu'on voyait tout à l'heure, elle a peut-être 150 ou 200 ans de vie, malgré le fait qu'elle fasse 20 cm de diamètre et 10 cm de haut. Mais voilà, la croissance très limitée de ces végétaux, très lente, en fait des êtres qui ont une durée de vie importante. C'est aussi, voilà, si on redescend un petit peu en altitude, hein, la grève, la neige, ces sommets, ces glaciers, mais aussi les gens qui y vivent, et avec leur histoire, leur sociologie spécifique. C'est aussi un territoire qui est relativement diversifié, si on le compare notamment au territoire que j'évoquais, des grands domaines skiables en Savoie. Ben, il y a une diversification bien plus grande des activités, avec encore une emprise assez forte des activités agricoles qui marquent le paysage avec ces terrasses assez fameuses, qui continue à être entretenue et à servir des formes de pastoralisme dans ces milieux de haute montagne. Et puis une histoire récemment mouvementée avec là, cette photo qui avait été diffusée par l'association Montagne Wilderness, hein, qui avait fait une action, un sitting on va dire, sur le glacier pour dénoncer le projet d'extension. Et si on constitue un petit peu la chronique des choses, hein. À partir de la création du téléphérique, il y a eu un fonctionnement assez pérenne en régie municipale qui a duré jusqu'à 2017. Et à ce moment-là, la gestion du téléphérique est passée aux mains de l'entreprise de la SATA, qui opère aussi les Deux Alpes et l'Alpe d'Huez. Et on va dire que c'est cette transformation économique de cet appareil du télécabine qui a commencé à créer des tensions, dans la mesure où le projet de reprise du téléphérique de la Grave, c'était pas juste un projet de reprise, c'était un projet d'extension, d'amplification, en vue d'avoir des investissements sur le territoire qui bénéficient à l'entreprise et idéalement au territoire. En tout cas, autour de 2019, se sont un peu cristallisées des tensions avec notamment des habitants, mais pas que des habitants, aussi des associations, pas mal Montagne Wilderness, France Nature Environnement, notamment, qui sont positionnés dans le débat public et qui ont, haussé la voix pour dénoncer un projet qui jugeait pas forcément en phase avec les attentes des habitants du territoire, en tout cas de pas tous les habitants du territoire. Cette histoire, elle a eu une culmination en octobre 2013, quand il y a eu un groupe d'activistes qui est venu camper sur le glacier pendant une semaine pour dire on défend le glacier, on vient sur le glacier, on empêche le chantier de commencer. Effectivement, ils ont réussi à empêcher le chantier de commencer. Et là, actuellement, fin 2025, on est dans une phase de concertation. Le chantier a été mis en pause, on va dire, aussi pour des questions économiques, parce qu'apparemment, le groupe la SATA a des questions, enfin des orienté ses moyens sur d'autres aménagements sur son domaine skiable des Deux Alpes. On est donc actuellement dans une phase de concertation, qui est une façon peut-être de calmer les tensions et de voir sur quel projet repartir. Voilà quelques illustrations de ce qui s'est passé, on va dire, sur le glacier, qui à l'époque, enfin si je vous montre ça, c'est aussi qu'on a été plusieurs collègues, notamment Sébastien Ibanez, qui est l'écologue dont je parlais tout à l'heure, Michael Chambru, qui est le sociologue, à être fortement impressionnés par cette mobilisation autour de lieux que nous, on connaissait. Moi, pour y avoir un peu regardé les moraines et tout ça un peu plus bas. Sébastien, pour avoir étudié la végétation très spécifique des rochers de haute montagne. Michael, pour connaître assez bien l'écosystème, on va dire, social de la Grave et en général des stations de ski. On a été impressionné par l'idée qu'il puisse avoir une telle mobilisation autour d'un glacier, un objet inerte, mais qui finalement renvoie à des tensions un peu profondes dans la société, évidemment. Et voilà un peu le type de mobilisation. Là, ils étaient sur un rognon rocher qui est censé supporter un pylône de du télécabine, rognon rocheux sur lequel poussent des petites plantes bien spécifiques sur lesquelles je vais revenir dans un moment. La mobilisation, elle a drainé des gens très variés. Par exemple, là, c'est des planches produites par un anthropologue qui est aussi aquarelliste et qui traduit dans ses aquarelles sa vision d'anthropologue activiste, on va dire engagé. Je vous passe la lecture de ça, mais en gros, il porte une vision à la fois un peu ironique, mais à la fois profonde et philosophique sur ce qui se passe sur ces glaciers, quoi, et sur ce que ça fait finalement pour lui qui a participé à cette occupation du glacier, ce que ça crée comme sentiment, notamment d'attachement au lieu. Alors, j'évoquais le rognon rocheux. On voyait la photo des gens qui étaient avec leur pancarte sur de la ZAD glaciaire, et on voyait en contrebas de cette photo des filets. C'est des filets qui ont été mis à l'époque pour protéger des pieds d'Androsace, du Dauphiné, qui avait été qui une petite plante à pousser très lente, etc., qui avait étudié notamment Sébastien Ibanez et quelques autres collègues écologues. Et cette plante, il y en a une quinzaine de pieds répartis sur le rognon rocheux. La révélation de la présence de ces plantes a posé un souci, parce qu'en France il y a un cadre réglementaire qui fait que les espèces protégées, ben on doit faire en sorte de les conserver et d'éviter de les impacter par les projets. Et à l'époque, dans la précipitation, un peu dans l'incertitude de qu'est-ce que doit faire l'aménageur dans ce projet, ben ils sont venus mettre des filets pour protéger, éviter que le chantier qui est plutôt au-dessus vienne impacter les zones de pousse de ces plantes, sauf qu'en fait la pose elle-même des filets a contribué à générer du coulis de béton qui est venu engluer les plantes. Enfin, c'est un détail, mais ça montre aussi toute l'ironie de ce contraste entre cette plante qui n'a rien demandé à personne et qui vit là comme elle peut, attachée à son caillou, et puis la puissance des moyens, on va dire, mécaniques et de transformation du milieu que peut avoir la société humaine, et notamment dans le domaine de l'aménagement. Et alors cette plante, elle a été embarquée dans la controverse, parce que du coup elle a été utilisée comme moyen judiciaire, juridique, pour essayer de contrer le projet. Et l'ironie du sort a fait que cette plante était en fait une plante qui n'avait pas encore été décrite. On pensait que c'était l'Androsace pubescens, une plante connue et protégée, et en fait c'est une Androsace qui n'avait pas été décrite, que les collègues ont appelé Androsace delphinensis. Ils ont fait officialiser ce nom d'une nouvelle espèce. En fait c'est une sorte de sous-espèce de l'Androsace, sauf que cette nouvelle espèce du coup n'apparaît pas, ou pas encore en tout cas, dans la liste des espèces protégées. Du coup en fait ce travail entre guillemets qui des collègues écologues de faire connaître une nouvelle espèce n'a servi à rien dans ce cadre-là. Néanmoins, bon, il y a des recours qui continuent, qui vont demander plus de temps pour être jugé. Toujours est-il que ça montre un peu la façon dont le savoir scientifique, ici qui est en construction, puisqu'il s'est créé en allant sur le site du fait du projet d'extension de la remontée mécanique, ben comment le savoir scientifique vient se frotter à des questions sociétales un peu plus larges. J'en viens maintenant à ce bouquin dont j'ai deux exemplaires ici, hein, si vous voulez le consulter après, qui a émergé dans la foulée directe de cette occupation du glacier. Donc on va dire Seb, Sébastien, Ibanez, Michael et moi, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. La petite plante, ça a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire, au sens aussi où on connaît ces lieux, on a des connaissances sur ces lieux, on assume qu'on a des attachements pour ces lieux, bien qu'on ne vive pas à la grave, on assume aussi qu'on ne pense pas, mais sans en faire un dogme absolu, on ne pense pas que ce projet d'aménagement sur un glacier qui dans 20 ou 30 ans aura disparu est la meilleure chose à faire pour les habitants du territoire. Une fois assumé ça, on a été chercher les collègues dans plein de domaines différents. Il se trouve qu'on a un bon vivier de scientifiques entre la Savoie et Grenoble, les universités Savoie-Mont-Blanc et l'université Grenoble-Alpes. Et puis voilà, on a été chercher une quinzaine de contributeurs dans ces différentes disciplines. On a aussi sollicité deux artistes pour Olivier a apporté tout un lot de photos sur les lieux. Philippe, qui est grimpeur aquarelliste, a produit des aquarelles qui sont celles-ci, hein, spécifiquement pour cet ouvrage. Et puis on a pu travailler avec une maison d'édition Gap en 16, et on a eu le soutien de quelques institutions locales, ce qui nous a permis de réaliser en un temps assez record, parce qu'en une année c'était plié dans le calendrier assez chargé du monde de la recherche. C'est assez un challenge qui mérite d'être mentionné, quoi. Voilà, juste bon à l'intérieur la première page de sommaire de cet ouvrage, je vous laisserai le consulter si besoin. Et je reviens sur cette idée d'engagement, qui est un équilibre délicat pour nous scientifiques, parce que d'un côté on fait des observations, on crée des chiffres, des constatations, des observations, des analyses, et d'un autre côté on a aussi comme tout un chacun des ressentis, des émotions. Et donc en fait, on est sans arrêt un peu coupé en deux, enfin tenté d'aller de l'un de l'autre. Et des fois, si on accepte d'avoir les pieds dans deux trucs, deux aspects, un monde qui est très objectivé, où on a des méthodes adaptées pour objectiver ce monde, et on assume aussi que les connaissances, elles ne peuvent pas être neutres parce qu'on est socialement situé. Et puis, on assume aussi d'avoir une relation au terrain, entre guillemets. Quand je dis le terrain, ça peut être le caillou, ça peut être la plante, ça peut être le groupe humain, c'est-à-dire ce qu'on étudie, l'objet ou le sujet d'étude. On a des relations avec cet objet. On ne peut pas s'en distancier complètement et venir regarder le monde, le couper en petits morceaux et puis faire comme si on n'avait pas de lien avec ce monde. C'est notre monde aussi. Donc on est aussi avec des doutes assez fortes sur l'usage de nos connaissances. Hein. Moi, dans le domaine du permafrost, je sais qu'une partie des connaissances qu'on produit, elles servent finalement aussi à mieux bétonner la montagne parce qu'elles servent à caractériser où se trouvent, par exemple, les poches de glace du permafrost. Et ça sert à des bureaux d'études pour éviter des endommagements sur leur bâtiment. Et donc, au final, on assume complètement au travers de cet ouvrage. Et enfin, ça nous a aidé à assumer le fait qu'on ne peut pas être neutre dans ce genre de contexte. Et ça nous a amené aussi à cette idée que quand on commence à connaître un objet, un lieu, une plante, une société humaine, on commence aussi à s'attacher. Et le savoir scientifique, il pousse aussi à ça. Il donne à connaître le monde sous toute sa variété et il aide à s'y attacher. Alors voilà, on a vaguement l'impression que les retombées de ce projet, on va dire, éditorial de réaliser un ouvrage, ça a été de faire bouger des personnes et un peu des institutions, puisqu'on a emmené avec nous aussi des institutions, ce qui n'est pas rien, parce que le projet avait, dès le départ, encore un angle assez engagé. On a contribué à diffuser des connaissances. Bon, ça, c'est aussi ce qu'on fait et ce qui se fait assez bien dans tous les lieux et tous les supports de médiation scientifique. Et puis, on espère qu'on a peut-être fait évoluer les rapports à des mondes qui sont en apparence connu, mais sur lesquels il reste encore plein de choses à découvrir, le monde glaciaire de la haute montagne. Donc voilà, je termine sur cette petite slide qui montre la haute Romanche, le versant opposé au grand glacier, tout ça, mais qui est le versant où se développe plutôt le pastoralisme et où il y a aussi plein de belles choses à voir avec cette idée que comprendre le monde, c'est bien. Mais selon moi, ça doit être aussi quelque chose qui permet de s'y attacher et éventuellement de les défendre en y prenant part. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Xavier Baudin pour cette présentation saisissante. C'est le temps des questions, de l'échange. Je ne sais pas qui veut commencer à questionner Xavier sur à la fois sur ce qui se passe aujourd'hui en Haute-Montagne ou justement sur cette question d'engagement et du rôle du scientifique dans la société.
Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui est plutôt assez équilibrée. Ce livre que vous avez décidé d'écrire, vous assumez qu'il est militant. J'ai pas vu d'économiste, par exemple, qui aurait peut-être pu avoir une vision différente de la vôtre.
À ma connaissance, enfin, il y a de la géographie économique, en tout cas. Il est militant, oui et non. Il y a quelques. En fait, c'est une compilation de récits personnels. Chaque chercheur, chercheuse a été laissé libre de traduire comme il l'entendait la demande initiale, qui était de faire résonner ses connaissances scientifiques avec la controverse. Il y en a certains qui sont restés très factuels, décrivant le monde tel qu'ils le voient à travers leurs instruments scientifiques, et puis d'autres qui sont allés un pas en avant en disant ce projet, faut pas le faire. Mais il reflète une variété aussi. On n'est pas tous dans ce collectif qu'on a fondé, qu'on a appelé RIME. Voilà, bon, on n'est pas tous du même avis. On n'a pas tous les mêmes intentions, on va dire, politiques au sens large, au sens noble, vis-à-vis de cette controverse. Et si le militant, il milite pour la variété aussi des points de vue et l'importance de les révéler, ces points de vue. Et de les mettre à disposition du plus grand nombre, quoi.
Oui, une question, s'il vous plaît, par rapport à l'aspect un peu juridique du problème de tels aménagements, qui va rejoindre des aspects, par exemple, de respect de la biodiversité, mais sous des formes légales, juridiques. Et l'importance d'avoir la connaissance aussi des spécialistes en droit de l'environnement, en différentes des aspects du droit économique aussi est aussi important, puisque c'est aussi, on voit bien dans ce que vous avez cité qu'il y a eu des rejets, par exemple, par rapport à des choses que vous aviez déposées. Et donc, il est aussi important dans tous ces domaines-là, et d'avoir une approche juridique et donc d'avoir aussi la pertinence de l'évolution des lois en fonction en la matière. Et on sait que, par exemple, dans beaucoup d'endroits en Afrique, il y a eu énormément de batailles pour pouvoir à la fois préserver des environnements et puis malheureusement ça s'est pas toujours passé comme on le voulait et on, voilà, ça s'informe, mais cette approche juridique me paraît extrêmement importante aussi quand on parle d'aménagement de territoire même dans les Alpes.
Oui, oui. Bah, pour connaître de plus ou moins près un certain nombre de luttes, on va dire, dans les milieux activistes, militants, sur les territoires alpins et ailleurs. Effectivement, l'outil juridique, il est toujours engagé en même temps qu'un outil de mobilisation plus citoyenne sur la conscience des impacts ou sur une politisation des enjeux autour de l'aménagement. Et l'aspect juridique, ben, dans l'ouvrage, il n'est pas spécialement traité, hormis le fait qu'il est décrit un petit peu, mais avec la lunette d'un écologue, et décrit comment la plante Landrosas a été embarquée dans cette sous affaire juridique. Néanmoins, pour connaître un petit peu ce qui s'est passé derrière, effectivement, il y a eu pas mal de juristes et autres, et notamment des collègues de l'UGA qui ont été investis dans ces recours au tribunal qui est celui de Marseille, je crois.
Bonjour, moi j'aurais une question. En fait, vous avez parlé des aménagements touristiques. Par contre, on a également sous les glaciers des aménagements industriels à type utilisation de l'eau de fonte des glaciers pour notamment produire de l'hydroélectricité. Et d'un point de vue chimique, le solide eau, enfin l'eau à l'état solide, doit être en équilibre avec son liquide. Donc si on enlève l'eau pour produire de l'électricité, on déséquilibre, donc on reprovoque de la fonte de la glace. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez également? Est-ce que il y a des recherches au niveau de cette production d'hydroélectricité, ce qui était valable également quand on parlait la poche d'eau à Tignes, donc qui menaçait donc le l'humain. Donc quand on la vide, on sait très bien que le glacier va refondre pour compenser.
Je comprends bien du coup le début de votre propos. On peut pas dire que le glacier fond pour compenser la vidange du lac. Ils font de toute façon, et ça c'est, ils font parce que le climat lui est pas favorable, notamment les températures de l'air, mais aussi le rayonnement solaire. C'est ça qui influence la fonte. Et après, effectivement, le lac, une fois vidangé, il va se re-remplir, sauf si on a enlevé son barrage, qu'il soit naturel ou pas. Si on l'enlève, le lac ne se remplit pas. En tout cas, c'est vrai que la question de l'hydroélectricité fait partie des enjeux sociétaux liés à l'évolution de la haute montagne dans un contexte où d'autres types d'aménageurs, pas touristiques, mais les producteurs d'énergie sont tentés et partent aussi dans une course, on va dire, dans une dynamique de capter cette ressource au moins temporairement pour la turbiner et pouvoir produire de l'énergie, ce qui va peut-être amener à la construction de nouveaux barrages ou d'aménagements peut-être au fil de l'eau. En tout cas, il y a un aspect aussi social et politique au-delà de juste le tourisme en haute montagne qui est lié à la question de la production d'énergie hydroélectrique.
Oui, je suis là, bonjour. Vous nous présentez du coup cette approche où vous assumez l'engagement en tant que chercheur. Ma question, c'est est-ce que ça a un impact financièrement en fait vis-à-vis de vos travaux de recherche, ou est-ce que c'est quelque chose que vous craignez, que vous avez anticipé? Voilà, je m'interrogeais par rapport aux conséquences de cet engagement à votre niveau.
Moi, je me personnellement et avec mes collègues, on va dire qu'on mène pas des projets de recherche très onéreux. Il n'y a pas forcément besoin de grands instruments ou de de ce point de vue-là, on peut pas dire que ça joue beaucoup. Par ailleurs, on a la chance en France d'avoir un système, on va dire nationalisé, de réalisation des recherches publiques où on est payé sur nos salaires proviennent du budget de l'État, on va dire, et c'est indépendant, en tout cas jusqu'à présent, et on espère que ça va durer, indépendant de pression politique, économique, extérieure, quoi. Donc de ce point de vue-là, par contre, c'est vrai que porter une voix, on va dire, critique ou une voix qui décortique un peu des aspects sociaux qui amènent à porter des responsabilités sur des évolutions qu'on observe. Moi, j'observe l'évolution de la haute montagne sous l'angle des terrassements et tout ça. Il y a des responsables à ça. C'est pas pour cibler une personne ou une autre, mais il y a un système économique, social qui est en place et qui est responsable d'une façon ou d'une autre, plus ou moins directe. Cette vision critique, forcément, elle ne peut, dans un premier temps en tout cas, qu'amener un peu à créer des divergences, à faire qu'il y a un risque de pas pouvoir dialoguer avec certaines personnes parce qu'elles se seront senties attaquées ou alors parce que elles préféreront éviter ce genre de débat parce que politiquement c'est trop risqué pour eux. Mais on assume aussi. Ouais.
Bonjour. Moi j'avais une question par rapport à votre cheminement en tant que chercheur. Est-ce qu'à un moment donné ça vous a poser un cas de conscience de vous positionner en tant que militant, enfin alors je crois que c'est le terme que vous avez utilisé, mais comment est-ce qu'à un moment donné, enfin est-ce que c'est difficile pour un scientifique de se dire à un moment donné ce que je découvre sur le terrain dans mes études va m'obliger à aller vers une autre posture puisque la seule posture scientifique ne suffit pas et que du coup il va falloir que je m'engage en tant que citoyen en brouillant un peu les limites. Et est-ce que ça vous pose un cas de conscience en tant que praticien ?
Non, moi ça me pose pas de cas de conscience, hein, je veux dire, mais c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps. Et ceci dit, je suis pas tout seul et il y a de plus en plus de collègues dans la sphère. Enfin, de plus en plus, je sais pas, mais en tout cas, moi j'en découvre de plus en plus, on va dire. Il y a des collectifs qui se forment. J'ai en tête Scientifiques en rébellion ou un truc qui sera peut-être moins connu, qu'on appelle les ATECOPA, les ateliers d'écologie politique, qui sont, on va dire, des lieux de discussion où la communauté scientifique s'interroge un peu sur sa place dans le monde, dans la société, sur ce que la science fait au monde, sur ce que le monde, comment le monde en réaction réagit sur la science. Donc il y a beaucoup de lieux où on peut avancer dans ses pensées, on va dire, et se... Personnellement, moi, je me sens beaucoup mieux, on va dire, maintenant que j'ai en quelque sorte ancré une envie de comprendre le monde dans quelque chose qui assume que cette envie de comprendre le monde, elle va apporter quelque chose à comment ce monde fonctionne, quoi. Et apporter quelque chose dans une direction qui me semble plus... Alors, c'est là le truc le plus délicat, c'est de dire que c'est ce qui me semble. C'est ça c'est du ressenti, on va dire, assez personnel et qui peut être critiqué. Néanmoins, à partir du moment où on l'assume, où on l'affiche, on n'est pas en train de brouiller les pistes et de dire l'inverse de ce qu'en fait on a envie de faire. Donc, moi, je pense qu'il y a, c'est une position qui est assez, assez agréable, que je trouve intéressante et à laquelle j'essaie de, à ma mesure en tout cas, de pousser aussi mes collègues au travers de ce genre d'ouvrage, c'est aussi l'idée.
Merci, bonjour. J'ai une interrogation par rapport à l'utilité de la recherche dans quelques domaines que ce soit. Je trouve que les politiques et les économistes financent la recherche et après quand le rapport ne leur convient pas, ils ont tendance à fermer les yeux. Donc pour illustrer ce que je viens de dire, je vais vous donner un exemple. Vous avez passé deux diapos sur Val Thorens, la cime Caron. 1984, je suis allée skier en haut de la cime Caron. C'était une cime avec un petit couloir pour accéder à une piste rouge et de l'autre côté, une piste noire qui descendait comme une piste noire. J'y suis retournée 20 ans après. On avait fait une plateforme avec des restos. Et là, 2023, il paraît qu'ils ont ouvert un centre des congrès. Donc j'adore le ski, l'aménagement de la montagne en haute montagne, je trouve que s'il est bien fait, après tout, pourquoi pas. J'ai été l'une des premières à trouver très bien l'histoire d'avoir fait le relais avec le parking et la benne pour monter directement au niveau d'Aurel. Mais là, je me pose quand même la question de voir l'utilité d'un centre de congrès, enfin, si l'appellation est juste, en haut d'une cime de montagne. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est si on veut préserver les différentes si on veut préserver la nature des échecs qu'on a déjà engendrés par l'artificialisation des sols et le développement des remontées mécaniques, on est en train de le reproduire pour l'accès en moyenne montagne des vélos électriques via des sentiers qui sont sabotés. Donc, voilà. L'interrogation, c'est que le travail de scientifique est très, extrêmement rigoureux et que les politiques et les économistes n'en ont pas franchement grand-chose à faire et que c'est aux citoyens de réagir. Voilà. Merci.
Merci pour cette intervention. Ce que ça m'évoque peut-être plutôt, c'est la question d'effectivement à quoi sert la science dans la société, à quel besoin sociaux elle répond, vers quoi on l'entraîne. Connaître assez bien le milieu grenoblois et savoyard, on va dire, mais pas que, qui reflète un peu ce qui se passe partout en France et plus largement dans le monde de la science occidentale, quoi. On se rend compte quand même que la science, elle est, si elle n'est pas écoutée parfois quand elle vient alerter, des fois elle est très convoitée quand elle vient créer de la croissance économique. Il y a qu'à évoquer les moyens qui sont mis pour des instruments qui visent à comprendre la physique ou développer des algorithmes, créer des nouvelles matières qui auront une utilité industrielle, on va dire. Il y a qu'à voir les différentiels de financement de ces sciences, de l'ingénierie, de la technique, de la physique, en comparaison par exemple avec les sciences humaines et sociales qui, elles, cherchent juste à comprendre le monde social dans lequel on est. Le différentiel de financement de ces champs disciplinaires pour saisir que la science a quand même une utilité, mais pour certains. On est de plus en plus nombreux ça fait longtemps que cette instrumentalisation de la science, on peut le voir comme ça, mais en fait la science, elle est aussi au service d'un projet de société capitaliste qui vise à faire croître l'économie et avec tout ce que ça a comme impact pour la société. Et voilà. Et ça, c'est dénoncé depuis des dizaines d'années que la science s'est structurée dans ce projet, on va dire, de servir le capitalisme. Mais dénoncer, ça suffit pas. Et du coup, on va dire qu'actuellement, dans nos communautés, ce qui se pose, c'est est-ce qu'on sort de l'institution et on ne fait plus de science, ou est-ce qu'on reste dans l'institution et on dénonce ça? Il y a différentes postures qu'on peut avoir.
Oui, juste une question pour compléter. Le fait d'être militant vous engage donc sur le plan politique, en lien avec vos recherches, mais est-ce que ce militantisme ne risque pas de vous mettre en porte-à-faux et à créer les recherches scientifiques que vous avez pu faire, que ces recherches puissent être considérées comme des opinions, et donc par là même contestées par toutes les personnes qui pensent que la science n'est pas quelque chose de construit et de neutre, mais quelque chose qui va décrire et permettre de mieux connaître notre environnement.
Si, de toute évidence. Enfin, encore moi, on va dire la science que je produis, elle est pas très impactante socialement. Et il y a des domaines, notamment les collègues des SHS qui travaillent sur des objets scientifiques qui sont, je sais pas, les inégalités sociales ou les problèmes de migration, la façon dont les politiques climatiques se mettent en place.
ça crée nécessairement des tensions, quoi. Mais après, voilà, une fois qu'on assume qu'on a une opinion ou une vision politique qui se traduit notamment à travers de la problématisation des choses, parce que c'est de là que tout démarre, en fait. Quelles questions on vient se poser, à laquelle on va chercher à répondre, avec une logique et une rigueur qui reste celle de la méthode scientifique, qui pose des hypothèses, qui met en place une méthodologie, qui vient faire des tests, qui élabore des résultats avec des marges d'erreur, des incertitudes. Donc à partir du moment où on met toute la rigueur qu'on a appris à avoir dans la production de nos connaissances, les connaissances sont en elles-mêmes inattaquables, sauf à refaire les choses et à dire qu'on s'est trompé, ce qui est possible aussi, hein. Mais donc en ayant cette rigueur scientifique, le fait de s'intéresser à un objet plutôt qu'à un autre, le fait de s'intéresser à quoi les pistes de ski viennent matérialiser, le fait qu'il y a une économie touristique en haute montagne qui est extrêmement dominante et qui empêche peut-être aussi les territoires d'aller vers d'autres orientations sociales, et ben ça c'est un parti pris politique, on va dire, au sens noble. Néanmoins, la démarche scientifique derrière, à mon sens, j'essaie de garder une démarche scientifique qui soit complètement rigoureuse, quoi.
Alors très rapidement, donc ce que vous avez produit comme recherche, notamment au travers du livre qui est très très large, ont eu un effet sur les élus?
Pas que je sache.
Voilà, est-ce que vous avez
disons que
quelque chose qui...
C'était pas forcément l'ambition en plus. Hein,
C'est quand même important.
Amener
une réflexion justement sur les acteurs locaux.
Ouais, mais les élus... alors déjà, là, c'est un cas qui... En termes territoriaux, ça concerne deux communes, quoi. Enfin, La Grave, Villars d'Arène. C'est géographiquement très restreint, quoi. Même s'il y a d'autres acteurs, puisqu'il y a aussi les services de l'État, il y a la région, au travers des subventions publiques, plus l'entreprise, du coup, la SATA. Mais les acteurs investis là-dedans, ils portent une vision qui ne va pas. On se fait pas d'illusions sur le fait qu'on vient de dire que regardez, il y a des petites plantes qui ont en elles-mêmes une valeur et que c'est quand même dommage de venir leur faire couler du béton dessus. C'est pas ça qui va les faire changer d'avis, parce qu'ils ont une vision du monde qui, où notamment la primauté de l'économie sur pas mal d'autres aspects, la primauté du court terme sur du plus long terme, la primauté de... Ben en fait, ils sont à leur place d'élus, de faire du développement économique. C'est ce qui est attendu par le système démocratique tel qu'il s'est institué. En tout cas, c'est un peu ce logiciel qui est en arrière-plan de la plupart des élus, hein, sans les mettre tous dans le même moule. Néanmoins, du coup, moi, je pense qu'on n'avait pas tellement l'ambition de faire bouger les élus. Par contre, on a l'espoir que ça infusait dans le reste de la société, quoi. On va dire les habitants, y compris des habitants qui peut-être oscillaient entre se dire c'est bien pour l'économie, mais c'est dommage pour l'environnement, et qui peut-être du coup auraient pris le parti d'être plus fermement opposé, puisqu'évidemment j'ai dit qu'on a une variété d'opinions vis-à-vis de ce projet, mais globalement c'est quand même on y avance plutôt une opposition à ce type d'aménagement.
Pour ma part, je pense qu'il y a moyen de faire bouger les élus, il suffit de multiplier les interventions comme la vôtre. En ce qui me concerne, je m'occupe d'une association d'éducation populaire, le Cercle Condorcet, que certaines personnes peuvent connaître ici. Et par rapport à l'éthique du scientifique que vous abordez bien dans la présentation de votre discours, avec le terme politisé, nous avons invité le 15 décembre, pas lundi prochain, lundi d'après, Yvan Gentil, qui est universitaire en mathématiques à Lyon, et qui est un des porte-parole de rébellion scientifique en rébellion. Voilà. Ma voisine qui vient de parler a amené quelques invitations à cette soirée. Vous pourrez partir avec.
J'ai plein de questions. Je fais un constat. Alors, en fait, au final, peut-être la question de
le seul moyen juridique qu'il y a d'arrêter ce genre de projet, finalement, c'est de trouver une petite fleur, un petit papillon. Et je trouve que finalement, bah déjà, il faut avoir une bonne connaissance, il faut avoir un catalogue de plus en plus en mettre de plus en plus dans ce catalogue d'interdiction, en fait, pour qu'on puisse protéger un peu l'ensemble du territoire. Et puis, peut-être... mais du coup, c'est pas l'équilibre qui, enfin voilà, comment déjà je trouve que c'est pas suffisant. Effectivement, dans la société, bah, les gens peuvent dire bon bah c'est juste pour une petite fleur, c'est quoi? Et c'est pas engageant pour les gens de soutenir finalement l'arrêt de projets comme ça parce que on se dit bah c'est pas grand chose quoi. Alors qu'en fait, je pense que c'est plus large que ça. Bien sûr, je pense que c'est plutôt tout un équilibre. Vous le dites bien et c'est pour ça que vous faites intervenir beaucoup de scientifiques de différents types en fait. Donc, alors je ne sais pas comment vous le présentez dans le livre, hein, du coup ça m'intéresse d'aller voir, mais c'est plutôt de montrer voilà, que juridiquement, il n'y a que ce poids de « on a trouvé la fleur qu'il faut protéger, donc on peut tout arrêter ».
Ouais, ouais. Bah, et puis le cadre juridique, c'est un cadre qui évolue, c'est un cadre qui est construit politiquement aussi. Hein. On peut déconstruire des lois qui visaient à protéger pour assouplir. Et je pense qu'on malheureusement on est dans une période où c'est un peu ce qui se passe, quoi. Mais bah, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des victoires juridiques. Hein. Je pense à la 69 bon, sur laquelle se sont assises les promoteurs de cette autoroute, mais il y avait une décision de justice qui évoquait pas des questions d'écologie, mais plutôt des questions de bien fondé sur ce que ça apporte en termes de bénéfices pour la société d'une façon générale.
Le temps file à toute vitesse, donc on a encore au moins le temps de prendre une question.
Merci. Bonjour et merci. Pour la conférence, j'avais une question parce que je trouve que c'est qu'il y a des professionnels de la montagne ou alors des locaux qui peuvent voir des changements, ce genre de choses. Et je trouve que les scientifiques, c'est aussi des personnes qui peuvent amener justement des sujets. Et je trouve que vous pouvez faire partie de ces premières personnes à amener les sujets et de débats. Et est-ce qu'il y a un groupement de scientifiques pour justement parler de certaines choses? J'ai vu telle chose, j'ai vu telle évolution négative, en général. Est-ce qu'il y a des groupements de scientifiques qui parlent de ça, des associations de scientifiques qui se regroupent pour aussi s'entraider, pour ensuite avoir un impact, créer quelque chose, créer un mouvement?
Ouais, ben c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Et puis, le monsieur derrière vous parlait de Yvan Gentil, qui est un camarade d'un collectif qui s'appelle Scientifiques en Rébellion, qui est par exemple un collectif qui rassemble, qui fédère un peu des collègues du monde académique qui, on va dire, ont un peu une unité de pensée dans cette idée d'être critique sur la place de la science dans la société et d'essayer de faire bouger les choses. Mais il y a d'autres, il y a pas mal d'autres collectifs de ce même goût, on va dire, qui existent, ouais, ouais.
Xavier, je vais vous laisser le mot de la fin, mais juste avant, c'est pour vous dire que le temps arrive à terme. Mais, on va pouvoir prolonger ce débat, justement, puisque ce vendredi 12 décembre, à 18h, nous organisons une table ronde, là, avec quatre intervenants. Donc, il y aura Xavier qui sera encore parmi nous. Il y aura une élue, il y aura un sportif de haut niveau, il y aura Michael Chambru qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc, on pourra prolonger, puisque le thème, c'est transition montagne, quels défis, quels enjeux pour l'avenir. Donc, voilà. Donc, ça va être l'occasion d'aller encore un petit peu plus loin, de titiller les politiques également sur ce sujet et l'ensemble des disciplines, quelques disciplines scientifiques. Donc, voilà. Donc, je vous invite, ça sera assez facile à Galerie Eureka, puisqu'on aura réouvert. En plus, vous pourrez redécouvrir l'espace, le nouvel espace sur la montagne. Mais voilà, il nous reste encore quelques poignées de secondes. Donc, Xavier, c'est un mot de la fin ou un message à emporter, il est pour vous.
Bon appétit.
Et je passe une dernière info, donc il y aura une distribution de flyers et simplement Science Action organise lundi 8 décembre à la MJC à quelle heure? à 20h, un hommage à Richard Taillet, qui est un astrophysicien qui nous a quittés cet été, qui est venu très souvent nous, à la Guerreca, nous parler de ses travaux et nous faire rêver sur ces sujets de physique et d'astrophysique. Et donc, voilà, plein de chercheurs vont venir parler de lui à cette occasion. Voilà, merci à vous et bon appétit et bon après-midi.